21h passées de quelques secondes sur votre radio locale, sur Radion, un nouveau numéro de votre émission littéraire. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est avec plaisir que nous allons ensemble passer cette heure, puisque nous sommes ensemble avec notre invité jusqu'à 22h. 306e numéro aujourd'hui, avec effectivement un nouvel auteur convié à nous parler de son dernier livre. Et ce soir, nous allons ensemble traverser les barrières du temps pour nous replonger dans l'univers de la chevalerie, mais pas que. Une chevalerie qui, 5 siècles après sa disparition, fait toujours rêver. Daniel Jankowski, bonsoir.
Oui, bonsoir Yannick.
Bonsoir Daniel, merci d'être venu depuis le Creusot devant le micro de l'émission littéraire de Radion. Ce soir, avec vous Daniel, on va parler de votre roman historique intitulé « Seigneurs et rebelles en Morvan » paru aux éditions Gunten au printemps 2016. Alors, formule un peu rituelle qui ouvre chaque numéro de Wagon Livre, Daniel Jankowski, puis-je vous demander de vous présenter un peu à nos auditrices et auditeurs ?
Oui, bonsoir Yannick. Déjà, c'est très gentil à vous aussi de m'avoir invité. Eh bien, voilà, je suis actuellement retraitée de l'éducation nationale. J'ai travaillé pendant pratiquement 30 ans en collège. Je viens donc du Creusot, ma ville natale. Mais en revanche, j'ai quand même beaucoup d'attaches dans le Morvan et où je passe régulièrement mes vacances. Voilà, dans le Haut-Morvan, je le précise, la région des lacs que j'aime beaucoup.
Alors Daniel Jankowski, en 2012, vous avez fait paraître déjà aux éditions Gunten un roman intitulé « Le cavalier de cœur », suivi de « Les ombres de Louis Prunel », constitué de 2 tomes, également aux éditions Gunten en 2013-2014. Alors vous avez comme ça la plume extrêmement féconde, on profite de sa retraite pour écrire.
Voilà, c'est la retraite, je trouve que c'est un moment privilégié. On doit le passer à se faire plaisir, hein, selon moi. Et je me suis sentie libérée donc du carcan horaire, du fait de devoir m'habiller, travailler à heure fixe, etc. Et donc, en fait, oui, j'ai eu envie de décrire, d'écouter un petit peu mes passions. Dans Cavalier de cœur, c'est le monde du cheval. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose. Je ne peux plus monter à cheval parce que j'ai des problèmes de dos, tout ça. Mais je vis encore intensément auprès des chevaux, avec mes filles qui sont cavalières. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'est un monde que j'adore et je me sens très bien auprès des chevaux.
Alors l'autre roman, composé de 2 tomes, Les ombres de Louis Prunel, c'est l'histoire d'une jeune fille en Morvan à qui il arrive bien des malheurs.
Voilà, là c'est un petit peu, enfin pas vraiment autobiographique, mais disons que j'ai songé à une collègue qui a vécu une situation très difficile, qui s'est retrouvée institutrice à la campagne et qui attendait un enfant. Ça a été elle a décidé de garder son enfant et là, ça a été quelque chose d'horrible à vivre. Enfin, elle nous a raconté toute cette histoire. Hein. On était encore très jeunes à cette époque-là. J'étais au centre PEGC à Dijon et cette personne a vécu un véritable calvaire. Donc, j'ai voulu lui rendre hommage. C'était une femme courageuse qui s'est battue pour son enfant, pour garder son enfant. Donc, c'est aussi un hommage aux femmes et aussi à l'enseignement parce que, bon, évidemment, on retrouve une petite école de campagne, ça c'est l'école de Louise Prunel, moi elle m'a toujours fait rêver, hein. C'était une petite école de hameau, bon elles sont toutes fermées maintenant, mais elles étaient vraiment charmantes, dans un cadre idyllique, dans les bois, tout ça, enfin c'est quelque chose qui me fait toujours rêver, voilà.
Alors, hommage aux femmes, il en est aussi question dans Seigneurs et rebelles en Morvan, donc votre roman historique, c'est tout le roman qui nous intéresse ce soir, donc je rappelle que ce roman... Un gros volume, gros roman hein, de 500 pages.
Oui, 586 pages plus exactement.
Belle aventure, nous sommes à l'extrême fin du XIIIe siècle.
Oui.
Daniel Jankowski, le Moyen-Âge, c'est une période qui vous est chère ?
Oui, tout à fait. Hein. Donc, ce roman, comme vous l'avez dit, se déroule au cœur du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, à l'époque de la dynastie capétienne, durant le règne de Philippe III le Hardi, de 1270 à 1285, dans le duché de Bourgogne. Il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge, c'est une période historique très longue, puisqu'elle s'étend du 5e siècle au 15e siècle. En fait, depuis, donc là, je ne fais pas un cours d'histoire, mais je veux quand même le rappeler, depuis 476, la fin de l'Empire romain d'Occident, qui est détruit par les grandes invasions, jusqu'en 1492, Christophe Colomb en Amérique, là, les voyages de grandes découvertes vont inaugurer les temps modernes. Voilà. Et le personnage principal de la première partie du livre, le seigneur Eudes, a réellement existé en tant que premier seigneur du château de Chissé en Morvan. Seulement, il y a eu très peu de documents écrits sur sa vie. Au XIIIe siècle, c'est un handicap quand on fait de l'histoire, parce qu'on n'a pas, on n'a pas encore les registres paroissiaux qui vont être créés 3 siècles plus tard par l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Là, le roi de France, François Ier, va déjà imposer l'usage du français à la place du latin dans les textes officiels, que ce soit les actes de justice ou les actes de loi, et il va ordonner aux curés de tenir donc ces fameux registres où l'on notait les baptêmes, les mariages et enfin les sépultures. En ce qui concerne Eudes de Bissey, on peut se référer à l'histoire de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun de Gabriel Bulliot, un antiquaire, c'est-à-dire un archéologue, mais aussi un érudit autunois, donc du 19e siècle, qui a traduit, puisque le testament d'Eudes de Bissey était en latin, et il datait de 1298. Donc ma démarche, en fait, ne visait pas à retracer l'histoire des premiers seigneurs de ce château de Chissé en Morvan. Ce n'est pas un travail, donc, de recherche historique pure. Aussi, j'ai décidé d'inventer de toutes pièces la vie du seigneur Eudes et de la façonner au gré d'une intrigue, tout en l'ancrant solidement dans l'histoire de son époque. Comme il s'agit d'une fiction, j'ai modifié son nom, celui de ses proches, notamment de sa première femme, de son frère, de son père également. Eudes devient donc le seigneur de Bissey. Pour les besoins de mon récit également, j'ai créé plusieurs personnages gravitant dans son entourage propre, tous ses enfants, ses amis, ses familiers, son écuyer, son intendant, quelques-unes de ses servantes. Grâce à l'écriture de ce roman, j'ai enfin pu visiter le château de Chissé, où son propriétaire actuel, Monsieur Jacques Desmarquest, m'a gentiment accueilli. Il m'a permis de publier en couverture une photo de cette superbe forteresse médiévale qui m'a souvent fait penser aux vers du poète Lamartine. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?
Alors Lamartine, effectivement, rappelons, voilà. S'inscrit dans l'esthétique romantique. Et c'est vrai que romantique était attaché notamment à la contemplation des ruines.
Des ruines.
Le Moyen-Âge était aussi une période et une époque historique prisée des romantiques.
Oui, et il se battait aussi, comme Jacques-Gabriel Bulliot, pour défendre les monuments historiques, hein, puisqu'on connaît le fameux cri de Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs ». Aussi Mérimée qui va, s'engager en tant qu'inspecteur des monuments historiques pour sauver donc le plus grand nombre possible de monuments de la démolition. Hein, parce qu'à Autun, si Jacques-Gabriel Bulliot n'était pas intervenu, les monuments partaient en carrière. Hein, enfin, on bâtissait avec. Donc c'est un petit peu dommage.
Il faut reconnaître, Daniel Jankowski, que le titre de votre roman « Seigneurs et rebelles en Morvan » fait plus penser à un travail documentaire historique qu'à un roman et à une fiction romanesque.
Oui,
le titre est un peu sérieux.
Le titre est un petit peu sérieux. Si ça ne vous ennuie pas, on en parlera après. J'aimerais d'abord parler des points d'ancrage historique. Mon roman s'inscrit dans le cadre de la féodalité. C'est le régime politique et social de l'Europe occidentale, plus particulièrement de la France du XIe au XIIIe siècle. Pendant longtemps, il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, la terre a été la seule source de richesse. Et le pouvoir reposait sur des relations, des liens de dépendance d'homme à homme. À la tête de la pyramide féodale, on trouve le roi. C'est lui qui nommait donc les grands seigneurs, les ducs et les comtes, jusqu'aux simples vassaux. Le vassal, c'est celui qui s'engageait par serment sur les reliques des saints, ça, c'est la fameuse cérémonie de l'hommage à servir un seigneur et à lui rester fidèle. Il devait notamment l'accompagner à la guerre, c'est le fameux service d'hoste où durant 40 jours, il guerroyait pour le compte de son seigneur. Donc, en échange de ses services, le seigneur devait pourvoir à l'entretien de son vassal. Pour cela, il lui donnait un fief, généralement. Donc, c'est le fameux geste. Il était symbolisé, ce fief, par une baguette ou une motte de terre. C'est le geste de l'investiture. Et en 1271, le seigneur Eudes de Bissé va recevoir, il sera investi du fief, donc de cette terre de Bissé, par le comte de Nevers. Attention, on ne parle pas encore de duc de Nevers. Et ça sera la même chose, donc, pour son fils cadet, Pierre. Maintenant, j'aimerais aborder le mode de vie des chevaliers. Ces chevaliers représentaient donc une caste, celle des guerriers ou combattants à cheval, qui va devenir la noblesse. On parlera du fameux sang bleu des Francs. Les fils de seigneurs s'entraînaient relativement tôt à guerroyer, à se battre. Leur père leur apprenait déjà à chevaucher, dès l'âge de 6-7 ans, à manier les armes. Et ensuite, ils entraient en service, et c'était des années très dures, auprès d'un seigneur, comme écuyer. L'écuyer, c'est celui qui porte l'écu ou le bouclier. Ensuite, ils deviennent chevaliers par la cérémonie de l'adoubement. C'était une cérémonie profane au départ, guerrière. On pouvait être adoubé sur un champ de bataille à la suite d'un acte de bravoure. Mais l'Église s'est emparée de cette cérémonie de l'adoubement pour en faire quelque chose de très solennel. On parlait alors de huitième sacrement de l'Église. Et là, elle intervenait vraiment. Bon, je sais pas si je dois vous citer les armes donc du futur chevalier. Le parrain d'armes lui remettait ses armes. Il y avait tout d'abord les armes défensives, le haubert ou la cotte de maille, le haume ou le casque avec nasal, enfin l'écu. Puis les armes offensives qui servaient à attaquer. On a la fameuse lance, l'épée avec le baudrier, le ceinturon qui était vraiment l'insigne du chevalier, enfin le coutelas, la masse d'armes, etc. Et le père devait aussi fournir à son fils un destrier, c'est le grand cheval de guerre de l'époque. Donc avec cela était lié tout un mode de vie. Les seigneurs chassaient beaucoup, ils s'entraînaient. C'était aussi une utilité puisqu'il y avait des loups en hiver et il fallait bien protéger les paysans de la seigneurie. Ensuite, leur plaisir favori, ils s'adonnaient donc à un tournoi.
Alors, on aura peut-être l'occasion de revenir sur le superbe épisode du tournoi que vous situez à Tonnerre.
Oui.
Et qui dure 3 jours.
Oui, tout à fait.
3 jours au moment de la Pentecôte. Mais on va, Daniel Jankowski, dans un premier temps, marquer une première petite pause musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes avec vous pour continuer à parler de votre roman « Seigneurs et rebelles en Morvan » disponible en librairie aux éditions Gunten. On se retrouve dans quelques minutes.
À toi la fille qui me rend si du récit tendre, qui sait me parler quand je suis barré et je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle aime tremper dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main, quand tous les jours je m'en faisais pour mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger.
J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre quand me la rende. Mon bonheur me méprise, et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme si comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je vous répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Seigneurs et rebelles en Morvan, c'est le titre du roman de notre invité, Daniel Jankowski, un roman disponible aux éditions Gunten. Vous l'aurez bien compris si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, qu'il s'agit d'un roman totalement ancré dans la période médiévale, un roman découpé en deux grandes parties. J'allais dire une première partie très masculine, dans laquelle, Daniel, vous montrez les fonctions des chevaliers, leurs occupations, hein, que ce soit les occupations de chasse, de loisirs, les banquets, et puis effectivement tout ce qui relève du cérémonial qui entoure l'identité de chevalier. Oui, hein, oui. On devient chevalier. Alors, ces chevaliers, bien sûr, sont... disons, ont une forte empreinte guerrière qui s'exprime notamment lors de tournois. Et dans votre roman, il y a un épisode absolument magnifique, un tournoi que vous situez d'ailleurs à Tonnerre. On voit d'ailleurs notre personnage central, Eudes de Bisset, et ses compagnons se rendre à Tonnerre. Alors évidemment, il y a tout le périple, il quitte la haute vallée du Cernins, Saulieu, on y reviendra. Est-ce que vous voulez... peut-être d'abord nous donner quelques précisions historiques sur ce tournoi que vous situez dans votre roman à Tonnerre, ou est-ce que vous voulez nous donner lecture du passage en question ?
Je peux vous donner la précision historique. Il n'y a pas de chroniqueur qui parle d'un tournoi donc à Tonnerre proprement dit, mais en revanche, en 1170, on sait qu'il y a eu un tournoi à Rougemont, près de Montbard, qui dépendait donc de la vicomté de Tonnerre. Maintenant, je peux peut-être vous lire un extrait donc de ce tournoi. Le matin de la Pentecôte s'était enfin levé et le soleil, déjà haut dans le ciel, annonçait une journée radieuse. Quelques heures avant le tournoi, les haumes ornés de cimiers multicolores avaient été exposés sous les bannières des participants dans ce qu'on appelait un cloître, une grande pièce spécialement réservée à cet usage. Les premières épreuves débutèrent tôt dans la matinée, avant que la chaleur n'ait eu le temps de ramollir l'énergie guerrière des combattants. Ces commensailles qui ouvraient les joutes étaient réservées aux débutants, les bacheliers, ou encore aux jeunes chevaliers récemment adoubés, comme c'était le cas d'Enguerrand et de Pierre de Bisset. Le héros d'armes, la trompette à la main, déchiffrait les armoiries des chevaliers avant d'annoncer leur nom d'une voix forte, tandis qu'ils pénétraient au pas dans la lice. En fin de journée, le baron participa à des rencontres plus animées que celles de la matinée, réservées aux chevaliers les plus expérimentés. Sans éprouver aucune crainte, il s'engagea avec plusieurs de ses amis dans des mêlées à cheval où l'on combattait à la batte ou à l'épée neutralisée. Cette épreuve, nommée Béor ou Béour, était particulièrement spectaculaire et dangereuse. Hélas, il y avait souvent des morts et des blessés graves, jonchant le sol de la lice lorsque sonnait la fin des combats. C'est pour cette raison que le pape Innocent II, au concile de Clermont en Auvergne, avait condamné la pratique du tournoi en l'an 1130. Mais la chevalerie française n'a pas tenu compte de cette décision. Presque 50 ans après, au troisième concile du Latran, le pape Alexandre III avait de nouveau défendu qu'on se batte de cette manière. Malgré la multiplication de ces interdits, le tournoi restait l'activité la plus prisée des chevaliers, fiers de montrer leur force et leur endurance au combat. Eux et ses amis faisaient partie de cette catégorie de combattants intrépides et ne concevaient pas de mettre un terme à ce qui représentait pour eux une véritable façon de vivre. Néanmoins, vers l'an 1280, l'année même du tournoi de Tonnerre, comme tous les autres membres de la chevalerie française, ils avaient accepté que les armes courtoises ou émoussées remplacent les armes de guerre plus meurtrières. Cette fois-ci, il s'agissait d'une décision royale.
Merci Daniel Jankowski pour la lecture de cet extrait qui relate le tournoi auquel participe votre personnage masculin principal, donc à Tonnerre. Daniel Jankowski, écrire un roman historique, c'est accepter surtout beaucoup de contraintes, les contraintes civilisationnelles, les contraintes culturelles, les codes religieux, éthiques d'une caste. Ce sont quand même des contraintes pour un romancier qui a plutôt envie de laisser libre cours à son imagination et à la création.
Oui, enfin, je dirais pas une contrainte. Pour moi, c'est aussi se faire plaisir. C'est se replonger dans des ouvrages historiques très sérieux. C'est relire Duby, c'est relire d'autres personnes comme ça. Et après, moi, ça ne m'a pas posé de problème. Si vous voulez, la vie de mon personnage, du seigneur Eudes, elle va se fondre donc dans ce cadre de la féodalité, de la chevalerie sans problème, ça ne m'a vraiment pas gênée. Bon, c'est vrai que l'Église intervenait beaucoup, hein, il y avait quand même cet aspect-là. Par exemple, une personne qui désobéissait risquait d'être excommuniée. Et c'était quelque chose de très grave, il faut se remettre dans la mentalité donc, de l'époque. On était chassé hors du sein de l'Église et on était privé de sépulture. Donc, on était enterré un peu comme un animal à l'écart, d'un endroit sanctifié comme le cimetière, hein, par exemple. Voilà.
Est-ce que, je l'ai dit précédemment, votre roman s'articule en deux grandes parties. J'allais dire, oui. Une première partie où c'est le monde des chevaliers, l'univers viril, masculin, que vous dépeignez avec beaucoup de talent. Moi, j'aime beaucoup les descriptions des banquets où l'on voit arriver les mets, où l'on voit la ritualisation aussi, la vie de cour, hein, ce qu'est la courtoisie, au sens étymologique, sens premier, c'est la vie, les bons usages au sein d'une cour. Mais la deuxième partie est consacrée alors à une héroïne, c'est-à-dire la fille aînée de votre seigneur, donc c'est Mélisande, et de cette jeune servante Gervaise qui, justement, font acte de révolte et de rébellion. On va peut-être en parler un petit peu plus tard. Mais il y a deux parties, donc une partie très masculine, une partie très féminine. Et vous avez été à l'aise avec l'une comme avec l'autre, ou est-ce que l'univers des chevaliers n'a-t-il pas été plus délicat pour vous à traiter que la partie féminine?
Pas du tout, parce que pour l'univers des chevaliers, j'ai fait des recherches aussi sur les chevaux. Hein. Donc, par exemple, les grands chevaux de guerre venaient de Lombardie, ils venaient des Pays-Bas, ils venaient aussi d'Espagne, hein, puisque les élevages de Normandie n'étaient pas, enfin, parfois, ce n'était pas suffisant. Non, c'est pareil, hein, c'est la même chose pour moi, ça ne m'a pas gênée. C'est vrai que l'univers féminin me touche, mais ce monde des chevaliers, non, c'est pas problématique.
Concernant Tonnerre, à un moment, donc notre chevalier arrive avec ses camarades à Tonnerre. Alors, bien sûr, ils aperçoivent l'abbaye Saint-Michel, qui est sur la hauteur au sud-ouest de Tonnerre. Qui, d'ailleurs, cette abbaye Saint-Michel fait face au château, de la comtesse de Tonnerre. Vous parlez de la crypte Sainte-Catherine.
Aussi,
et puis, ce qui est intéressant, c'est que notre Seigneur est hébergé rue des Fontenilles, chez un marchand d'épices et de soieries que vous appelez le sieur Pernette. Et il y a un passage absolument intéressant. Ça se passe à Tonnerre, c'est l'établissement de bains chauds et de vapeur.
Oui, alors là, on reste encore dans le domaine de la fiction. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu ce genre d'établissement, mais c'était une pratique courante au Moyen-Âge. Les chevaliers donc se rendaient dans ce genre d'établissement. Ils prenaient des bains et bien sûr, il y avait autre chose. Et là, le Seigneur va faire l'éducation de ses fils puisqu'il a prévu de les marier d'ici quelques mois. Ça aussi. Ensuite, il va se rendre, il y aura l'orfèvre. Enfin, il va pouvoir, on voit que c'est un seigneur quand même relativement aisé puisqu'il va pouvoir s'offrir de belles choses. Ça aussi, c'est important. Il va voir un maître drapier, ensuite un orfèvre. Et aussi, il y avait souvent, enfin l'orfèvre, là, il y avait souvent des banquiers, des usuriers qui se trouvaient là. C'est le cas de maître Olivetti, cet orfèvre qui prêtait sur gage de l'argent au seigneur. Les seigneurs s'endettaient parfois puisqu'ils avaient un train de vie tout à fait démesuré. Parfois, toutes ces fêtes, tous ces banquets, c'était quelque chose de fabuleux. Quand on adoubait aussi deux fils, ça représentait donc une dépense considérable, parfois qui allait au-delà donc du revenu des terres.
Alors, on va marquer un nouvel intermède musical et puis ensuite on parlera de l'intrigue criminelle parce qu'il y a une intrigue criminelle qui vient s'insérer. D'ailleurs, très rapidement, puisqu'en fait, le premier meurtre apparaît page 23, très précisément sur un roman dont vous l'avez dit d'ailleurs, Daniel Jankowski, comporte presque 600 pages.
Oui, tout à fait. Donc, il y a un premier crime qui intervient le soir de la chasse. Le seigneur chasse. Bon, d'un seul coup, ça ne s'était jamais vu encore dans la région. Il va se trouver confronté à un affreux criminel, quelqu'un de démoniaque qui va assassiner les filles de ces vilains. Et le seigneur se devait de protéger ces vilains qui vivaient sur sa seigneurie, puisqu'il travaillait pour lui. Les vilains cultivaient la réserve du seigneur, ils étaient aussi tenanciers, ils cultivaient leur propre terre pour le compte du seigneur.
On reviendra sur l'intrigue criminelle après la pause musicale. Oui. Je rappelle que nous sommes à bord de Wagon Livre, nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h. Pour parler de seigneurs et rebelles en Morvan, c'est le titre du roman de notre invité Daniel Jankowski. Nous revenons dans une poignée de minutes. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Soul in me, your gift of what light brings. The highest heights can turn around to soulless seeds on stony ground.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Seigneurs et rebelles en Morvan, c'est le titre du roman de notre invité, c'est Daniel Jankowski qui est aujourd'hui sur les banquettes de Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Nous avions un petit peu abordé l'intrigue criminelle qui est là d'ailleurs du début à la fin du roman.
Tout à fait,
alors, à
oui.
La fin, je ne dis pas comment cela se termine, bien sûr. Mais il y a toute une série de meurtres. Alors, oui. Essentiellement des jeunes filles, il y a tout de même, je crois, un jeune garçon.
Il y a un jeune garçon, mais qui ressemblait fort à une jeune fille. Donc c'est pour ça que le criminel s'est trompé, sans doute. Hein. Et il y aura aussi une jeune femme qui a déjà porté des enfants. Mais là, on verra, c'est fait sciemment, puisque c'était quelqu'un qui était très proche du Seigneur, c'était une de ses maîtresses préférées. Voilà.
Alors peut-être, Daniel Jankowski, pourriez-vous nous lire un extrait avec, j'allais dire, une charge de suspense importante, puisqu'il y a tout de même il y a des passages qui sont malheureusement très, très cruels dans ce roman.
Oui, tout à fait. Oui, c'est, enfin, déjà, le Moyen-Âge était quand même une période sombre parfois. C'est vrai que la mort était souvent présente. On y reviendra avec la condition féminine. Hein. Les femmes qui mouraient en couche, c'était vraiment quelque chose de très fréquent. Là, en plus, c'est vraiment, c'est très dur. Il y a cet assassin qui rôde et qui sévit sur la seigneurie.
En fait, bien sûr, c'est anachronique, mais c'est une sorte de serial killer qui rôde dans le comté.
Modestement, oui, on va dire modestement. Obéissant aux ordres du Seigneur, les palefreniers scellèrent prestement les chevaux et il franchit le pont-levis au galop en compagnie d'une vingtaine de soldats et de sa suite composée d'amis et fidèles compagnons d'armes. En chevauchant d'une traite, ils atteignirent les lieux du crime en moins d'une demi-heure, malgré la neige et le verglas qui pourtant ralentissaient leur progression. Les sabots des chevaux, enveloppés de vieux chiffons, dérapaient quand même sur le sol gelé à la moindre dénivellation, notamment dans les endroits très pentus, comme il en existait beaucoup dans la région. Néanmoins, on évita de justesse plusieurs chutes, c'étaient tous des cavaliers chevronnés. Les abords du lieu où gisait le cadavre leur parurent plus sinistres encore que la première fois. Il faisait un froid glacial. De la buée s'échappaient des naseaux de leurs montures et des bouches des hommes quand ils prenaient la parole. On avait l'impression que ces petits nuages évanescents, pourtant insignifiants, allaient se transformer en glace à la minute même. Il y avait une épaisse couche de neige recouvrant le sol et elle s'accrochait partout dans les buissons et les arbres. À une lieue de là, tout en bas d'un ruisseau gelé, ils firent une découverte plus macabre encore que celle de la chasse datant des fêtes avant Noël. D'autant que cette fois-ci, il s'agissait d'une gamine d'une douzaine d'années environ, victime innocente qui avait été souillée, puis immolée comme une pauvre biche aux abois. L'infortunée petite n'avait presque pas de forme féminine, son corps était d'une maigreur épouvantable. « Recouvrez-la sans plus attendre, » ordonna Eudes, bouleversé par un spectacle aussi affligeant. « Quelqu'un connaît cette pauvrette ?» lança-t-il à la ronde. Personne ne lui répondit. La scène les avait tous plus ou moins choqués. Le regard fixe, ou au contraire affolé de certains d'entre eux, trahissait même de l'épouvante. Mais c'étaient des hommes, des chevaliers, pourtant habitués à la vue du sang et des cadavres. Pour cette raison, ils évitaient de laisser transparaître leurs sentiments, craignant qu'on ne les traite de couards ou de faibles femelles, insulte suprême pour ces vaillants combattants. Béranger réagit le premier en exprimant son émoi. « Je sais point qui est cette fillette, sire. Tout ce que je peux affirmer, c'est qu'il s'agit d'une œuvre satanique, celle de Belzébuth en personne. Quel homme, saint d'esprit, s'en prendrait à une enfant aussi jeune? C'est un meurtre répugnant et indigne d'un chevalier, ajouta-t-il en crachant par terre, pour signifier son dégoût.
Merci Daniel Jankowski, c'est un extrait de votre roman Seigneurs et rebelles en Morvan, donc des viols, des crimes odieux sur des jeunes paysannes qui sont perpétrés par un mystérieux fou, en tout cas sur le fief du seigneur Eudes de Bisset à la fin du XIVe siècle, fin du XIIIe siècle, pardon, parce que nous sommes en 1270. Cette histoire criminelle, elle n'est pas naïve au cœur du roman.
Non, tout à fait. Elle a un lien. On verra. Je ne vais pas raconter. Mais en fait, c'est une vengeance personnelle qui est dirigée contre le seigneur Eudes. C'est aussi le pivot autour duquel donc le roman va s'articuler, se structurer. Et c'est ce qui me permet d'expliquer le titre aussi. Seigneurs et rebelles en Morvan. Bon, on a vu dans la première partie, les seigneurs, c'est le monde des dominants. Maintenant, on peut parler de ces deux révoltes, de ces deux rébellions. La première, elle s'explique par l'intrigue criminelle. Les paysans vont se révolter, donc c'est le chapitre 8, la révolte inattendue mais fâcheuse des vilains de la seigneurie de Bisset. Ils vont se révolter pourquoi ? Eh bien parce que cet ignoble assassin s'en prend donc aux filles, à leurs filles, et ils réagissent, ils soupçonnent tout de suite l'intendant du seigneur, Emery de Tille, qui a fort mauvaise réputation, parce qu'il a l'habitude de forcer les filles de vilain. Donc, tout de suite, on le soupçonne. Bon, d'autre part, la seconde révolte, c'est celle de la fille du seigneur. Donc là, elle se révolte contre l'autorité de son père. Et là, cette intrigue criminelle va donner une toute autre dimension à la fugue de Mélisande, la fille du seigneur, et de la petite servante Gervaise. Ce sont vraiment mes héroïnes préférées parce qu'elles n'ont pas peur. Elles vont préférer affronter la mort plutôt que de subir l'esclavage d'un mariage arrangé avec un homme qu'elles n'aiment pas. Elles savent sciemment qu'en quittant le château, la protection paternelle, elles se mettent en danger. Et c'est un danger de mort. Elles risquent de tomber entre les griffes de la assassin. Et on verra, voilà.
Concernant les rebelles dans le roman, il y a d'une part effectivement les vilains qui considèrent que les meurtres sont, que les personnes à l'origine des meurtres des jeunes filles paysannes qui sont violées, égorgées, ils pensent que leurs auteurs appartiennent à l'aristocratie, à la noblesse, ou au monde de la chevalerie. Donc c'est une sorte de lutte des classes, d'une certaine manière, quelque part.
Oui, d'une certaine
manière. Ils ne pensent pas que le criminel puisse être un vilain ou un gueux.
Ou même un militaire. Là, je ne vais pas raconter. Mais en fait, le seigneur Eudes n'est pas quelqu'un, ce n'est pas du tout un seigneur tyrannique. Puisque au tout début du roman, je raconte, il va sacrifier quelques pièces d'or pour stopper une famine. En fait, il est toujours bienveillant avec ses paysans et son épouse, Dame Bathilde, très pieuse, va faire la charité, elle va s'occuper, elle va essayer le plus possible de soulager les misères des vilains. Donc voilà, certaines révoltes ou jacqueries étaient déclenchées par le poids des impôts, des redevances. On disait que le vilain, il était taillable et corvéable à merci. En plus, à Bisset, on avait donc un moulin banal. Donc les paysans devaient soit sacrifier une partie de leur récolte ou payer une redevance au seigneur pour utiliser donc ce moulin.
Daniel Jankowski, à mon avis, il n'est pas superflu de rappeler que vous situez l'action de votre roman dans le Morvan.
Oui.
Et le Morvan, au Moyen-Âge, c'est un Morvan qui, en tout cas un peu comme aujourd'hui, bénéficie de conditions climatiques qui ne rendent pas la vie facile pour des cultivateurs, pour des paysans qui effectivement sont taillables et corvéables à merci.
Tout à fait. Donc les hivers étaient très rigoureux. Bon, la seule différence peut-être au niveau des arbres, on avait moins, c'était des feuillus, on n'avait pas du tout, c'est le 19e siècle qui a implanté donc tous ces résineux. mieux. Mais le climat était très rigoureux et c'était gênant au Moyen-Âge dans la mesure où l'on cultivait surtout des céréales. Donc les céréales gelaient facilement ou un printemps pluvieux risquait de gâter une récolte. Donc on tombait déjà dans la disette, c'était un moment de gêne passagère en attendant la suture, hein, c'est-à-dire la prochaine récolte. Et si ça continuait, ben on entrait carrément dans la famine. Hein. C'était la famine. Donc on n'avait pas très peu, pas ou très peu d'élevage. Les terres étaient laissées en jachère et donc c'était quelque chose de catastrophique. Quand la récolte était mauvaise, les gens mouraient de faim.
Nous reviendrons sur les femmes dont vous brossez de très beaux portraits, que ce soit la femme du Seigneur, Dame Bathilde, qui est l'incarnation d'une certaine beauté de l'Occident médiéval. Elle a un peu cette incarnation. Et puis Mélisande, la rebelle qui fuit l'autorité paternelle parce qu'elle ne veut pas qu'on lui impose un mari, de surcroît un vieux aux mœurs un peu douteuses. Elle incarne une certaine beauté morale.
Tout à fait. De toute façon, que ça soit aussi bien Dame Bathilde ou Mélisande, elles sont courageuses toutes les deux. Elles ont une certaine forme de noblesse. On va voir que Dame Bathilde, elle va mettre du temps, mais elle va quand même finir par se révolter. Alors au départ, elle est très amoureuse de son mari. Ça a été un mariage arrangé. Elle l'a subi, mais elle ne s'en est jamais plainte. Finalement, elle aime beaucoup son mari jusqu'au jour où il va décider d'imposer ce mariage avec un vieux barbon absolument épouvantable. Là, elle va commencer à réagir. Elle va vouloir défendre sa fille, surtout lorsque Mélisande va se trouver en danger de mort. Ça, c'est quelque chose qui va la heurter et elle va se mobiliser pour aider sa fille. Voilà.
Daniel Jankowski, nous retrouvons nos auditrices et auditeurs dans une poignée de minutes, le temps d'une petite pause musicale et nous revenons, grâce à vous, dans l'univers de la chevalerie et de ces femmes courageuses et rebelles. Je rappelle le titre de votre roman publié au printemps 2016 aux éditions Gunton, Seigneurs et rebelles en Morvan. On en reparle juste après.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Inusable chevalerie 5 ou 6 siècles après sa disparition, elle fait toujours rêver, elle occupe les historiens dont les travaux se multiplient à son sujet et les romans ne sont pas en reste d'ailleurs, tout comme notre invité Daniel Jankowski avec son roman « Seigneurs et rebelles en Morvan » disponible aux éditions Gunten. Alors parlons non pas cette fois-ci des chevaliers, mais parlons des femmes qui entourent cet univers viril, parfois plein de misogynie d'ailleurs.
Tout à fait, on a une vision assez misogyne de la femme qui est transmise par les hommes lettrés du Moyen-Âge, qu'il s'agisse d'ecclésiastiques ou de laïcs, ils font de la femme un être impur. En tant que descendante d'Ève, elle va inciter au péché. En tout cas, elle est inférieure à l'homme. C'est une éternelle mineure, la femme. Elle va passer de l'autorité donc de son père à celle de son mari, à qui elle doit obéissance et fidélité. Donc son destin est tracé à l'avance. Soit elle va devenir épouse et mère de famille, comme Dame Bathilde, soit elle entre au couvent. En plus, il s'agissait de mariages qui étaient décidés par le père. Ça sera le cas pour Eudes et Dame Bathilde, en fonction des intérêts de la famille, des terres, du lignage, etc. Donc les femmes nobles étaient mariées très jeunes, dès l'âge de 14-15 ans, généralement avec des veufs, parfois des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient perdu leur femme qui était morte, donc en mettant au monde leurs enfants, en mettant au monde donc de futurs chevaliers. Donc il y avait le cortège de ces maternités qui se succédaient. Mon héroïne, Dame Bathilde, en 15 ans de mariage, elle a accouché 13 fois, sans compter donc deux fausses couches qui ont bien failli lui coûter la vie. Ces naissances rapprochées s'expliquent aussi notamment par le recours aux nourrices. La fin de l'allaitement marquait le retour de la fécondité. Et ces femmes, donc, étaient, chaque année, elles étaient en danger. En danger de mort, puisque beaucoup mouraient en mettant au monde des enfants. Il y avait simplement une sage-femme ignorante qui les assistait, et on mourait soit en couche, si la naissance était compliquée, soit des suites de couches, il y avait des infections, etc. Et la femme, une fois qu'elle avait mis au monde son enfant, elle devait attendre 40 jours, la fameuse cérémonie des relevailles, pour paraître en société, parce qu'on la considérait comme un être impur. En plus, elle devait aussi supporter un immense chagrin. Il y avait une très forte mortalité infantile qui touchait les nourrissons. Il y avait un manque d'hygiène, des épidémies qui fauchaient les enfants, les enfants et les vieillards. Bon, le cas de Dame Bathilde, j'y reviens encore, elle est vraiment accablée de chagrin. Elle va pleurer ses enfants trop tôt disparus. Je vais vous lire un extrait. Si Eudes se souvenait du nombre exact de ses enfants, 10 d'entre eux avaient survécu en comptant Guillaume. Il avait oublié depuis longtemps le prénom de tous les autres, de pauvres petits anges morts en bas âge. Seule leur mère priait tous les jours pour eux et gardait encore leurs souvenirs émus dans son cœur. Donc voilà, ou autrement, la femme entrait au couvent à la jeune fille. Donc c'est le cas de Pétronille, la sœur cadette de Mélisande, qui choisit d'elle-même d'entrer au couvent plutôt que d'être confrontée à un mariage arrangé.
Pétronille choisit d'intégrer le couvent des Bénédictines à Dijon.
À Dijon, voilà, tout à fait. Autrement, le père de famille va brandir le couvent comme une menace. C'était pour les récalcitrantes. Ça sera le cas donc de Mélisande. Il va lui donner le choix. Ou même, je parle aussi de la belle Aubrée, la maîtresse donc d'Enguerrand, le fils aîné du seigneur. Son père va la menacer du couvent. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. C'était le mariage ou le couvent.
En tout cas, ces questions de l'éducation des filles, alors dans notre pays, bon, n'ont plus lieu d'être. Néanmoins, sous d'autres latitudes, il y a, on retrouve des
oui,
aspects de cette domination masculine sur les femmes, et notamment les jeunes femmes, sur leur avenir, leur devenir.
Bien sûr, hein, tout à fait, ça c'est quelque chose de classique. Et le cas des paysannes et des servantes était encore beaucoup plus dur. On respectait les dames nobles, elles étaient mariées. Bon, dans mon roman, il y a aussi un cas de violence conjugale, hein, ce n'était pas exclu, mais les femmes de conditions modestes, les paysannes, les servantes, elles étaient considérées comme des proies faciles. Le seigneur Eudes va choisir la belle Maria, qui n'est absolument pas consentante. Donc, il va en faire sa maîtresse, la pauvre proteste, elle doit déjà se marier, enfin, tout est programmé, et elle doit subir donc les assauts du seigneur.
Alors, vous avez parlé des nombreuses... des nombreux enfants des dames, hein. Isabeau de Villapourçon, vous en parlez, page 355, elle a eu 14 enfants.
Tout à fait, oui.
Et puis Gervaise, qui est cette jeune servante qui a 13 ans, alors elle est harcelée par un homme pervers, Macaire.
Oui.
Et c'est d'ailleurs elle qui va accompagner Mélisande. Elles ont toutes les deux des points communs, en ayant pourtant des origines sociales différentes.
Tout à fait,
Elles ont ce dégoût des hommes et elles fuient. Et quelque part, ce qui est magnifique, c'est qu'elles revendiquent leur liberté, ce qui est d'une audace incroyable en cette fin du XIIIe siècle.
Tout à fait, mais les femmes audacieuses au Moyen-Âge ont quand même existé. Hein. Donc moi, je pense vraiment à Jeanne d'Arc, la fameuse chevauchée de Jeanne d'Arc en 1429-1431. Pour moi, c'était vraiment quelque chose aussi. Hein. Elle s'est retrouvée à la tête d'une armée. Et donc, vous voyez, je pense que les femmes n'étaient sans doute pas aussi soumises qu'on voulait bien le faire croire.
Hein. Et puis vos héroïnes qui fuient le château, parce qu'elle refuse le mariage, le diktat de l'autorité paternelle, elles se travestissent aussi, elles coupent leurs cheveux, elles
tout
se déguisent
fait,
en homme,
oui,
ce travestissement.
Oui, tout à fait. Et Mélisande, elle a vraiment aussi, si vous voulez, elle est douée en équitation, enfin, elle est proche de la nature. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose. Et ça peut paraître contradictoire, mais elle aime beaucoup son père. Elle partage beaucoup de choses avec son père, notamment la découverte de la forêt, des paysages, les chevauchées, enfin bon, ils partagent beaucoup de choses et leur seul point de discorde, donc, c'est ce mariage arrangé.
Daniel, dernière pause musicale dans notre émission et on se retrouve dans une poignée de minutes pour conclure. À tout de suite.
Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. Autour de toi tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches où fuit Paris. Le vide t'aurait suffi. Le vide t'aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans la fleur que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi.
Je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est le moment pratiquement de conclure ce numéro de votre émission littéraire. Daniel Jankowski, bien sûr, l'ancrage très bourguignon, très morvandio, un très grand nombre de cités
oui.
bourguignonnes apparaissent dans votre
dans le roman.
Hein, c'est un fil continu. Je vous laisse le soin peut-être de les mentionner.
Tout à fait, merci. Donc il y a d'abord la ville de Saulieu hein, qui est mentionnée à plusieurs reprises. Elle n'est qu'à 4 lieues de la seigneurie de Bissey. Donc les seigneurs, quand ils partent au tournoi donc de Tonnerre, ils vont s'arrêter pour prier à la basilique Saint-Andoche de Saulieu, qui était à cette époque-là une collégiale. Bon, ensuite ils vont suivre la vallée de l'Armançon, donc un affluent de l'Yonne. On trouve, je cite des château, Tanlay en Cilfranc, puis tous les monuments de la ville de Tonnerre, l'abbaye Saint-Michel face au château de Montbellan, le château de la comtesse Marguerite de Bourgogne, la crypte Sainte-Catherine, bon, etc. Puis je parle de la ville de Nevers aussi, avec la porte du Crou au moment des différentes investitures de Pierre. Et dans la deuxième partie du livre, qui est très romanesque, là, je me suis fait plaisir parce que j'ai décrit des paysages, donc très bucolique, hein, que j'aime beaucoup, hein, le côté de cette beauté de la nature sauvage, indomptable. J'ai inventé la cabane donc d'Alban Larousse dans la forêt, la cabane de l'ermite aussi à la Roche aux Saintes, le site des charbonniers. J'ai créé de toutes pièces, hein, le personnage donc d'un jeune charbonnier, mais on fabriquait au Moyen-Âge, hein, dès le Moyen-Âge, du charbon de bois. Bon, je cite aussi les villages de Saint-Brisson, Carré les tombes, le domaine de la pierre qui vire, puis des sites préhistoriques, puisque les jeunes filles, en dernier recours, elles vont se réfugier dans une grotte.
Absolument.
Donc, voilà.
Et donc, c'est un très beau parcours, de très belles aventures guerrières, criminelles, et ces femmes courageuses, votre Mélisande et sa petite servante
et
qui
sa
se rebellent
servante.
Et
oui,
qui effectivement ne veulent pas se laisser dicter leur conduite par des hommes.
Hein. Oui, et si je puis me permettre, je vais conclure par une note, disons, très positive. Elles vont rencontrer chacune l'amour. Elles ont bien fait de résister. Mélisande va rencontrer un jeune et beau chevalier, Gauthier de Marnay, et la petite Gervaise, ça sera Thierry le charbonnier. Donc tout est possible. Hein, on peut. Je conclus par une note tout à fait optimiste. Malgré l'horreur de tous ces crimes, tout ça, elles vont échapper à l'assassin et tout finit bien pour mes deux héroïnes. Voilà.
Merci Daniel Jankowski d'être venu du Creusot ce soir parler de votre roman Seigneurs et rebelles en Morvan, disponible en librairie aux éditions Gunten. On peut aussi se le procurer via le site internet des éditions Gunten. Je rappelle que ce week-end au château du Clos de Vougeot, cette fois-ci c'est en Côte d'Or, c'est entre Dijon et Beaune, se tient la 10e édition de Livres en Vigne dont Luc Ferry est cette année le parrain. L'entrée est gratuite, c'est samedi et dimanche. Un très grand nombre d'écrivains d'auteurs seront présents pour dédicacer leurs livres, des livres à la fois sur la thématique du vin, mais des livres également de littérature générale. Tous les auteurs, tous les invités sont sur le site www.livresenvigne.com. Et puis, bien sûr, Wagon Livre sera sur place. On aura non seulement l'occasion d'animer des tables rondes, mais aussi d'enregistrer, j'espère, quelques interviews. Enfin, c'est déjà prévu. Donc, c'est ce week-end au château du Clos de Vougeot. La semaine prochaine, 27 septembre, devant ce même micro, ce sera une poétesse québécoise, Claudine Bertrand, que nous avons interviewée, puisqu'elle a vécu une résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay courant juillet et août dernier. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir accompagnés ce soir dans le Moyen-Âge. Je rappelle Seigneurs et rebelles en Morvan, le roman de Daniel Jankowski que je salue, que je remercie encore. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.